Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'extraits d'une biographie romancée de Pierre Bonnard, le peintre, intitulée « Elle, par bonheur, est toujours nue ». C'est une histoire d'art, bien évidemment, mais aussi d'amour entre l'artiste et Marthe, son égérie, qui deviendra son épouse, que Guy Goffet, poète et romancier, raconte avec l'œil d'un subtil et poétique regardeur. Pardonnez-moi, Pierre, mais Marthe fut à moi tout de suite. Comme un champ de blé mûr quand l'orage menace, et je me suis jeté dedans, roulé, vautré, pareil à un jeune chien. Comprenez bien, j'étais seul et désœuvré entre deux trains, dans une ville du nord écrasée de soleil cet été-là. Entrée par aventure et besoin de fraîcheur dans ce musée à colonnades et frontons impérieux qui domine la place à deux pas de la gare, je me disais que cette sorte de temple devait bien receler certains coins d'ombre et de silence propices aux tourments du cœur. C'est au détour d'une des salles où la chaleur me poursuivait, et je n'arrêtais pas de m'éponger le cou, le visage, les mains, que je la vis. Disons, pour être juste, que je vis une jeune femme venir à moi, dont j'ignorais tout, sinon qu'elle était nue, sinon qu'elle était belle, et son éclat d'un coup me rafraîchit jusqu'au ventre. Elle tourna tout son corps lentement vers la lumière d'une grande baie où tombait la neige d'un rideau de mousseline, et dans ce mouvement, toute cambrée à contre-jour, elle m'aspergea, comme une brassée de fougères mouillées, du parfum de sa chair et me fit défaillir. Je dus m'asseoir, l'air hagard et comme frappé d'insolation. D'un coup, l'eau de Cologne emplit toute la pièce et se mit à ruisseler sur mon cou. À cet instant-là, Pierre, avant même que j'aie pu esquisser un geste, tendre la main, soulever l'écran de fine poussière qui me séparait d'elle, Marthe fut à moi. J'en oubliais le canapé rose et le miroir et le tube que vous aviez soigneusement disposé autour d'elle comme l'hommage d'un roi. J'oubliais que ce n'était là qu'un décor et que cette Ève déhanchée en ballerine noire, croupe frémissante et mamelon tendu, n'était qu'un morceau de toile peinte, 124 par 108 cm, un tableau du musée. J'oubliais tout, l'heure, les murs, la ville et son étuve, ma vie boiteuse, ce que j'étais venu chercher ici, tout. Tout parce qu'une femme, soudain, à corps et à cri, dans le silence, venait d'effacer d'un trait de lumière toutes les femmes de ma vie. Parce qu'une femme d'un seul mouvement, devant moi, me découvrait la femme. Celle qui précède la mémoire et lui donne forme et couleur dans le désir insatiable, et la mort souvent nous a saisis avant que nous l'ayons tenue tout entière entre nos yeux. En vérité, j'attendais cette apparition et cet oubli depuis 47 ans sans le savoir, ayant jeté dans Dieu sait quel tiroir mes boîtes de couleurs, mes yeux d'enfant, et troqué l'or du pinceau pour la plume d'encre amère. Or, voici qu'elle était à ma portée, vive et brûlante, et plus nue qu'une eau de cascade, et voici que j'étais vivant. Voici que le poids de mon corps n'entravait plus mes ailes. Je fis un pas vers Marthe, et le petit miroir peint au-dessus du lavabo s'anima, fugitivement. Était-ce vous, Pierre, ou l'ombre de mon aile? Puis tout retomba, et la chaise fut vide dans la glace et pâle comme la mort, Vénus mutilée, corps sans visage, le reflet de Marthe. La sensation d'une présence me fit me retourner brusquement. Personne. Mais dans l'instant, il y eut un bruit de pas précipité dans l'escalier, un coup de tonnerre, un autre encore, puis un grand silence emporta la lumière. L'orage, les plombs qui sautent, je m'élançai vers la sortie. Dehors, la rue était noire, il pleuvait des cordes. Au moment de traverser, j'aperçus une femme en robe rouge qui cherchait un passage entre les voitures. Un tramway fit retentir sa corne, je criai vers elle de toutes mes forces. J'ai crié un nom, Pierre, un nom que je ne savais pas ou que j'avais oublié dans le temps d'avant, si loin déjà. Marthe, peut-être, ou Marie. Pardonnez-moi, Pierre, pardonnez-moi. Marie ou Marthe, Marthe ou Marie, de quelque nom qu'on la nomme, c'est son nom, c'est elle. C'est elle, Pierre, que vous m'avez donnée comme un champ de blé sous l'orage, et elle fut à moi tout de suite, par bonheur et toujours nue. Paris, décembre 1893. C'est elle, et ce n'est pas elle, cette jeune femme, là, au bord du trottoir, qui hésite. Un pas en avant, deux en arrière, elle tente de traverser le boulevard Haussmann, véritable champ de course à l'heure de pointe, comme si fiacres, trolley, omnibus à impérial, toutes les voitures à chevaux de Paris s'étaient rassemblées là et, prises de folie, cherchaient à se disputer le pavé comme une botte de foin emportée par la tempête. Un pas en avant, deux en arrière, c'est déjà Marthe et c'est encore Marie. À deux reprises déjà, ce jour même, elle a manqué de se faire renverser, piétiner. Mais têtue, elle n'entend rien à la prudence. Et puis, on gèle ici, malgré manteau et mitaine, les pieds surtout, dans les bottines au cuir trop fin, les pieds à l'étroit, les pieds fatigués. Elle vient juste de terminer sa journée chez la fleuriste qui l'emploie, et les doigts lui pincent encore d'avoir, debout dans une pièce sombre et mal chauffée, tout le jour enfilé des fleurs et des feuilles artificielles sur des tiges de fer. Bon Dieu, Marie, tu t'es bien trompée en croyant trouver le bonheur à Paris et la richesse. Que n'es-tu donc restée chez ton père dans le Berry à garder les cochons? Les fleurs, au moins, là-bas, ont la fortune du pot, qui est de bonne terre naturelle et vaste et verte, avec des étés d'or pour les doigts des promis et des hivers tout blancs pour le repos des doigts, et puis du feu dans l'âtre, et si peu de voitures qu'on les connaît par cœur et qu'on les salue toutes en tirant le chapeau. Assez, Marie, cesse tes balivernes, laisse-moi traverser, laisse-moi, bon Dieu, c'est le moment ou jamais. Pour le marcheur né qui allonge ou réduit la foulée au gré du spectacle de la rue comme un poète liambe céleste, il n'est pas de moment plus propice que d'autres, et celui-ci est le meilleur du jour. Peu lui importe que la température soit tombée brutalement sous zéro, le ciel est si haut que la ville, à cette heure, sous l'abat-jour des réverbères, ressemble à une souris affolée qui court le long d'une plainte. Cette image le fait sourire. Il repense à la scène qu'il a longée tout à l'heure, à sa lenteur de plomb sans éclat, comme une lame de rasoir abandonnée par le barbier des nues. Il en a fait sur le champ un croquis dans son calepin. Ce n'est pas le froid qui va l'empêcher de s'arrêter encore, de sortir son carnet, son bout de crayon, pour ajouter à sa collection, avec l'air appliqué d'un sergent de ville, adossé à un mur, un de ces petits dessins dont il a le secret et qui fera la joie de son cher Vuillard demain à l'atelier. Il voit d'ici son sourire relever la barbe rousse et l'entend déjà s'exclamer, comme d'habitude, l'œil sans malice, « Pierre, votre moisson est excellente, ce dessin-ci en particulier. N'avez pas perdu votre journée, diable d'homme. » C'est ainsi chaque jour depuis qu'il est libre et qu'il a choisi d'être peintre. Qu'il pleuve, vente ou grêle, Pierre arpente Paris, matin et soir, des Batignolles à Montparnasse, de Pantin à Montmartre, histoire de se remettre les yeux à l'heure, de se laver l'âme au fil de la Seine et dans le tambour des rues. Car Paris est son chevalet, les ombres et les lumières, son fusain ou sa mine de plomb sur le papier qui tremble, et les jambes des femmes qui font bouger la terre sous les froufrous sont ses pinceaux de rêve. Rien ne lui échappe. Ici, c'est un geste furtif. Là, toute une scène cocasse. C'est une petite blanchisseuse tout de noir vêtue et qui plie sous le linge. Une théorie de chien qui se dispute un os invisible. Un cheval de fiacre à l'arrêt qui voudrait bien brouter le chapeau à fleurs d'une dame interdite devant le jeu imprudent d'une petite fille rose sur le trottoir d'en face. C'est une boutique encore et son auvent jaune aux lettres retournées. Une passante au petit chien que le vent contre l'horizon plaque et va déshabiller et qui lutte et c'est une danse avec des courbes où la couleur se grise. C'est, à trois pas de là, une jeune fille en manteau de couleur qui s'apprête à sauter au milieu du boulevard, dans la cohue et dans la nuit. Le moment où jamais, c'est souvent le pire. Celui où toutes les cartes sont soudain, comme par miracle, réunies dans une seule main pour qu'arrive ce qui ne devait pas arriver. Après, on dira qu'on n'a pas eu le temps de le voir venir. Tant pis. Marthe s'est élancée comme on se jette à l'eau avec toute sa jeunesse. Elle a coupé court au jérémiade nostalgique de cette Marie en elle comme une ombre qui revient et revient et s'accroche au soir de fatigue. S'est elle-même rendue compte que la ruée avait repris de plus belle. La voici stoppée net au milieu du boulevard en crue et elle ne sait plus qui elle est ni ce qu'elle fait là. Girouette autour de laquelle les vents se déchaînent. Et c'est toutes les directions à la fois qu'il lui faudrait montrer. Mais c'est le nord qu'elle demande désespérément, l'autre côté, le calme, la chaleur de sa chambre. Ah, Paris, tu m'as bien eue avec tes lumières et tes promesses de falbala. Me voici seule parmi les trains de voitures et les galops de 100 chevaux fous qui me tournent le cœur. Dans sa poitrine affolée, Marthe n'entend plus que la voix sifflante de Marie qui étouffe et commence à tousser. « Tu vois, tu peux faire ta maligne et jouer les marquises tant que tu veux. Ta poitrine, elle, ta poitrine ne ment pas. » Et le docteur avait raison, mais tu n'en as jamais fait qu'à ta tête. Rappelle-toi ce qu'il disait. « Du repos surtout. Le grand air, mademoiselle Marie. Au vert. Au vert où vous n'irez pas loin. » « Mais j'ai 20 ans, docteur, et je veux vivre, moi. Vivre, vous entendez ?» Et ce tramway à vapeur qui arrive droit sur moi, en cornant, « Est-ce que tu l'entends ? Marthe, est-ce que tu l'entends ?» Tout de suite, à la corne désespérée du tramway, Pierre a mesuré le danger encouru par la jeune imprudente et s'est précipité à son secours. Maintenant qu'elle est saine et sauve au bord du trottoir, Pierre la voit. C'est elle. Sous le chapeau qui penche un peu, et qu'elle s'essaie tant bien que mal à remettre en place, mais que les doigts sont gourds et les épingles fines, elle a l'air échevelée d'une bête aux abois avec cette mèche rousse qui rebique, et le minois froissé de rose, et ses yeux de chatte qui disent merci en clignant des cils. Dieu qu'elle est belle! Petite et gracile, malgré l'épais manteau, c'est tout juste s'il lui donne 16 ans. Elle n'a rien dit encore. Elle cherche à rattraper son souffle et se contente de regarder comme une oasis ce fringant garçon qui la dépasse largement et qui lui sourit avec des yeux d'enfant tout rond, tout noir. On dirait deux billes qui roulent sur du velours derrière le binocle cerclé de fer. Pierre est mis comme un monsieur. Sans cette espèce de houppelande qui l'a jeté sur son costume et qui le vieillit, ce chapeau melon qui ne va pas avec sa tête, elle lui donnerait 20 ans à peine, car sa barbe clairsemée tient encore du duvet, et cette manière qu'il a de la dévorer toute crue est d'un adolescent. « Tu te trompes, Marie. celui que le destin a désigné pour être là, au bon endroit, au bon moment, est un homme, jeune encore, certes, mais décidé, et qui vit au présent jusqu'au bout de ses yeux. À 20 ans, il en a 26 aujourd'hui, il a choisi la liberté et la peinture envers et contre tous, son milieu, sa famille, la femme qu'il aimait, et contre l'avenir même, ce petit train gris qui roule son tacatam monotone sur des rails sans surprise et vers le couchant.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Voix au chapitre, Évelyne Jobin.
Non, ce n'est pas d'être un Parisien de la 11e heure qui lui donne à présent cet air émerveillé, malgré la grisaille et le froid. Il y a 18 ans que Pierre vit à Paris, et même si ses années de pensionnat à Louis le Grand, à Charlemagne, comptent pour du beurre ou presque, pensées, des ciels de préau et des sorties rares, frileuses, surveillées, ça fait quand même une bonne décennie de promenades quotidiennes, et pas une qui ne lui ait apporté son grain de sel pour la journée, de quoi nourrir le carton à dessin. Mais aujourd'hui, c'est toute une saline sans crier gare qu'il a devant les yeux, on comprend qu'il n'en revienne pas. Que plus rien n'existe soudain que ce miracle de l'autre dans son champ, qu'il exile de la terre et du ciel tout ensemble. Sont-ils debout au bord du trottoir et dans la foule? Sont-ils assis à la table d'un café, dans la fumée et le bruit? Ils seraient bien en peine de le dire l'un comme l'autre s'ils pouvaient parler. Paris déjà n'est plus dans leurs yeux que le corps changeant du désir qui se retourne dans ses draps. Pierre sait déjà et ne sait pas encore que cette jeune femme qui se réchauffe dans ses yeux va l'entraîner jusqu'au bout de lui-même. Il sait déjà et ne sait pas encore que l'eau, quand elle monte d'un regard de femme, peut tout renverser et qu'il n'y a pas de mur qui tienne, surtout si le mur est un homme qui vit et vibre dans l'azur comme un violoncelle. Il sait déjà et ne sait pas encore que l'eau est première, est femme, est nue, qu'en elle toutes les couleurs se lavent de la nuit et fleurissent dans la lumière. Pour l'heure, il regarde cette femme comme il n'a jamais regardé personne, ou alors il était quelqu'un d'autre et il ne s'en souvient plus. Il lui semble qu'avec elle, le monde recommence et qu'il vient de naître, un arbre jeune dans le soleil qui attend d'avoir toutes ses feuilles pour parler, toutes. Elle est si belle, si bouleversante dans son mutisme mutin qu'il l'appellerait Marie comme pour rire. Mais c'est elle, soudain, dans l'air bleu, qui prend la parole, qui dit, sans rougir et d'un trait, « Je m'appelle Marthe de Méligny, appelez-moi Marthe seulement. » Marthe de Méligny, c'est un nom d'aristocrate, un nom de courtisane, et ce n'est pas son nom. Elle aurait beau mettre tout l'or du ciel et de la terre dans ses prunelles, accrocher de la dentelle de Calais à chacun de ses gestes, et mouiller d'eau claire sa voix rauque qui s'enraye, on ne la croirait pas. D'ailleurs, elle se garde bien d'en rien faire. Il lui suffit que Pierre la regarde de tout son long comme la seule fleur vivante du bouquet pour qu'elle oublie d'où elle vient, sa honte ancienne et la misère de sa condition. Elle parle et elle rit et Pierre croit tout ce qu'elle raconte. Il a plongé si profond dans ses yeux verts qu'il entend ces mots comme des galets qui roulent dans les reflets et parmi l'herbe. Qu'elle soit ce qu'elle dit, la fille naturelle d'un vieil aristocrate italien qui ne lui a laissé à sa mort que le soin de monter à Paris et de gagner sa vie, n'importe, pourvu qu'elle continue de faire bouger ses lèvres rouges et que le temps s'arrête et qu'il demeure ainsi comme la mer devant la mer. Quand ils se lèvent enfin, la nuit est tombée, il prend sa main et marche sur les eaux. « Je m'appelle Pierre, dit-il. Pierre Bonnard, je suis peintre. » Le temple, c'est le studio de Rançon, une habille occultiste, chez qui leur groupe se réunit chaque semaine sous la présidence de Madame, sacrée lumière du temple. On y vient, comme pour les dîners mensuels, affublé de costumes orientaux. Malgré une discrétion et une pudeur naturelles qui le tiennent, comme souvent, à l'écart des débats, mais le font parfois intervenir durement lorsqu'un des amis absents est attaqué, Pierre n'est pas le dernier pour détendre l'atmosphère. Son espièglerie, sa vivacité d'esprit, sa fantaisie font d'autant plus merveille qu'elle contraste fort avec une allure de gandin tout en minceur, barbichu, binoclé et fermé à double tour comme un tiroir caisse. Et tous l'attendent avec quelle impatience, surtout Ker Roussel, le nabi juponard, et Étienne Vuillard, le fidèle compagnon. À peindre côte à côte, ou presque, dans l'atelier de la rue Pigalle, Édouard et Pierre se sont stimulés l'un l'autre. Aux commentaires du premier, toujours chaleureux et enthousiaste, répondent le silence souriant ou la grimace éloquente du second. Leur complicité, cependant, est sans défaut, leur estime profonde. Ils éprouvent un tel respect l'un pour l'autre qu'ils ne se tutoieront jamais. On a pu les confondre parfois au tout début, à tort, en dépit d'une influence réciproque inévitable et d'un même univers. Mais bien vite, les sujets et les styles divergeront. Vuillard, l'extraverti, s'enfermera dans un intimisme nostalgique où la richesse de sa palette, en se déployant, joue de toutes les nuances d'une gamme assourdie. Bonnard, au contraire, introverti, ouvrira dans le champ lumineux des couleurs toutes les fenêtres possibles sur la beauté de Marthe et du monde. Tout l'hiver 93, la chambre de Pierre a fleuri sous le ciel de Paris. Il y a désormais des roses fraîches dans tous les vases, des étoffes de couleur qui traînent sur les chaises, des bas de soie qui sèchent au-dessus du poêle, et derrière le paravent, au milieu des draps froissés, une fleur plus longue, plus nue, dans les bras de Morphée, Marthe. Que l'ombre la garde encore un peu dans son rêve qui flotte et la berce comme une eau. Pierre, dans sa cuisine, prépare le café. Il aime ce moment où le jour se décide à sauter la barre de la nuit, si près du silence qu'on entendrait son souffle en se penchant à la fenêtre. Il aime cette attente et ce geste de verser l'eau bouillante, tandis que l'eau du temps coule sur les toits, où seul encore, tel des cris de coq, percent les coups rouges des cheminées. Le café passe lentement, noir comme un coup de poing, la nuit est morte. Pierre, qu'il soit ou non amoureux, se lève tôt, de peur de manquer ce premier rendez-vous avec la lumière, quand l'œil, encore mal débarbouillé des songes, n'est qu'un œuf sous la paille des cils. Regardez-le, penché au bord de la table, à l'aube, qui griffonne ce qu'une nuit de feu a bouté dans son sang. C'est un moine dans sa cellule, un moine heureux qui prie matine à sa façon, en écoutant le glouglou du café, et sœur Marthe qui se retourne sur sa couche à côté. Comme les vraies fleurs, Marthe se contente de peu, une terre calme, de la lumière et beaucoup d'eau. Pour la lumière, il y a les yeux de Pierre. Pour l'eau, il y a le petit cabinet de toilette avec le tube en attendant une vraie salle de bain, et Marthe y fait ses ablutions plusieurs fois par jour, comme si elle n'était jamais nette, jamais débarrassée de ce qui lui colle à la peau. Quant à la bonne terre, Pierre lui a promis une surprise pour l'été. Le reste, le confort bourgeois, la richesse, la société, elle s'en passe fort bien. Pierre est de la même trempe, un canapé en pire, de lourdes tentures avec cordon doré, un chevalet, vous voulez rire? Et pourquoi pas la cape noire, le chapeau à large bord, le foulard gaucho? Non, ce qu'il aime, c'est la fenêtre dans le mur, des chaises pour s'asseoir, une table pour manger, un lit pour dormir, rien qui l'encombre. Les murs suffisent et quelques livres sur une étagère qu'il ne cesse de relire, avec ses préférés sur le petit guéridon près du lit, Villon, La Fontaine. L'appartement de la rue Lepic est trop petit pour recevoir et leurs fréquentations se font à l'extérieur. Lunier Pau, qu'on va retrouver le soir dans son tout neuf théâtre de l'œuvre, les Nabis chez l'un ou l'autre, Ambroise Vollard dans sa boutique et, dernier venu, les Natançon au siège de la Revue Blanche. Thaddée Natançon dirige avec son frère cette luxueuse publication qui rassemble, aux côtés de jeunes talents comme Gide, Proust et Apollinaire, deux des poètes dont Pierre restera toute sa vie féru, Verlaine et Mallarmé. Thaddée a découvert Bonnard au Salon des Indépendants. Quatre petits tableaux ont suffi à l'ébranler. Un vrai coup de foudre, dira-t-il. Pour lui, Pierre se pliera en quatre. Couverture de la revue, cul de lampe, frontispice, et même l'illustration d'un livre entier, Marie, du Danois Peter Nansen, pour lequel Marthe servira de modèle. Missia, la femme de Thaddée, est belle, raffinée, très séduisante. Bonnard peindra plusieurs portraits d'elle, haut en couleur, mais néanmoins un peu figée, comme si sa beauté grave et son statut de grande dame indisposaient le naturel fantaisiste de Pierre. Au vrai, Marthe est toute sa palette. C'était « Elle, par bonheur et toujours nue » de Guy Goffet, édité à l'origine dans la belle collection L'un et l'autre chez Gallimard et désormais disponible en folio. Lors de la pause musicale, nous avons écouté « Sous le ciel de Paris » Édith Piaf. Cette émission était produite par Frédéric Guyon. Vous pourrez écouter la fin de ce texte dimanche prochain à 18h02 sur Bretagne 5 ou en podcast dans vos chapitres. Je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.